Bon, alors on va parler maintenant avec le directeur de Vireo, qui est une entreprise novatrice spécialisée dans la création et le déploiement de jardins hydroponiques en milieu scolaire, qui célèbre sa troisième année de présence auprès de centaines d'élèves et de professeurs à travers la province. Bonjour Alexandre Chamberlain.
Bonjour.
Bon, comment allez-vous? Alors là, évidemment, vous avez une petite pause, c'est l'été, mais quand même, vous êtes, j'imagine, très actif dans les projets à venir.
Ben absolument. Puis écoutez, oui, il y a certaines pauses parce qu'effectivement, c'est le congé auprès des écoles au Québec. Mais nous, Vireo, on est déjà rentré un petit peu au Canada, aussi aux États-Unis. Fait que déjà, ça bouge à ce niveau-là. Et c'est un petit peu différent. Donc, on se tient occupé. On aime ça comme ça.
Oui, c'est ça. Donc, on parle de culture hydroponique. Parlez-nous-en de cette culture hydroponique qui est une belle alternative, finalement, dans le domaine de l'agriculture urbaine.
Oui, ben en effet, quand on a fondé Vireo, nous, notre objectif, c'est de reconnecter les jeunes à la nature puis de les reconnecter avec l'agriculture urbaine. Puis au Québec, ben durant l'année scolaire, durant l'hiver, c'est difficile de le faire à l'extérieur.
Ouais.
Donc, la culture hydroponique, ben c'est une culture qui peut se faire à l'intérieur, à l'année. Donc, ça permet vraiment de donner cette expérience-là aux jeunes puis de pas planter au printemps puis de revenir à l'automne avec les plantes souvent plus ou moins en santé parce que personne l'été à l'école.
Bien sûr. Et puis, bon, comment ça a germé ce projet-là? D'abord, je pense que ça vient d'un projet universitaire pour vous, hein?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait un bac en génie agro-environnemental à l'Université Laval. À la base, ce que je voulais, c'était avoir un impact positif dans les villes. Je voulais rendre les villes plus productives au niveau alimentaire et énergétique. Donc, j'ai fondé, durant mon bac, AgroCité, qui est une entreprise étudiante qui fonctionne encore aujourd'hui. Et ce qui se fait, c'est la conception, l'installation, l'entretien des systèmes hydroponiques. Puis l'ensemble des légumes qui vont pousser dans ces systèmes-là vont être vendus par la suite aux cafétéries étudiantes. Puis entre autres, en 2016, l'année où j'ai quitté, on était capable de ravitailler à 100% les besoins des cafétéries du Vachon, la cafétéria de Saint-Jérôme, qui sert pas loin de 150 repas par midi. Ça, c'était produit vraiment sur le campus, dans les lobbies, sur les toits, dans les pavillons. Donc, c'est extra local, finalement.
Oui, c'est ça. J'ai manqué un petit peu. C'était pour quel organisme, là? J'ai manqué, le son a été mauvais.
Je suis désolé.
Non, ça va. Faites juste me rappeler l'organisme dont vous parliez, là.
AgroCité.
Ah, AgroCité, oui, d'accord.
AgroCité,
okay. Parfait. Bon, parfait. Et puis donc, il y a différentes façons de faire de l'agriculture hydroponique. Il y en a qui sont peut-être écologiquement plus durables, façon de parler.
Oui, ben, en quelque sorte, effectivement, c'est la culture hydroponique, c'est une culture hors sol. Donc, c'est une culture qui peut être, on pourrait dire, plus propre, parce que plus qu'il n'y a pas de sol, ben, il n'y a pas de terre, il y a moins d'insectes, etc. Il y a plus de contrôle aussi sur la culture. Fait, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on peut être très créatif de la manière dont on le fait. Là. C'est possible d'en faire de manière très verticale, d'avoir des murs hydroponiques, par exemple, des systèmes hydroponiques, où est-ce qu'il peut y avoir des poissons. Donc là, on parle d'aquaponie. C'est vraiment les déchets des poissons qui vont aller nourrir, suite à quelques transformations, les plantes au niveau de leurs besoins en nutriments. On peut faire des systèmes hydroponiques très vastes, comme par exemple dans des serres, sur des toits, etc. Entre autres, les fermes Loufa à Montréal, là, qui font des très grandes cultures hydroponiques dans la ville, sur des toits, effectivement. Mm-hmm. Donc, c'est tout plein de sortes de systèmes hydroponiques qui peuvent exister. Nous, dans notre temps, dans les écoles, le potager hydroponique qu'on a, c'est un potager hydroponique qu'on dit éducatif. Fait que c'est vraiment un outil éducatif dans le sens qu'il est dimensionné pour qu'il puisse rouler puis qu'il puisse passer par les portes, dans les ascenseurs et tout. Mais il y a aussi des éléments, comme par exemple, les jeunes peuvent écrire sur le potager comme sur un tableau blanc. Ils peuvent aimanter des choses dessus. Il y a certains petits défis ou problématiques qu'ils vont devoir résoudre pour apprendre à travers le potager. Donc, on fait vraiment, on utilise l'hydroponie pour faire un outil éducatif.
Oui, c'est ça, exactement. Bien ça, on va en parler justement. On va s'arrêter pour une pause, puis on va se concentrer là-dessus sur vraiment ce que ça comporte là, en milieu scolaire. Mais juste parler d'agriculture hydroponique, là, de culture hydroponique, parce que évidemment dans le contexte des changements climatiques, c'est très important. Et puis, bon, pour les villes qui dépendent énormément de l'importation de produits alimentaires, bien sûr, et puis l'approvisionnement qui est un défi de taille là, pour justement subvenir aux besoins d'une population croissante. Alors, ça peut être une belle solution, mais encore, bon, ça dépend toujours aussi de la source d'énergie qui est utilisée pour produire des aliments hydroponiques.
Ben oui, tu sais, l'hydroponie, ben, premièrement, le système agricole, c'est un système important pour tout ce qui est lutte et adaptation au changement climatique. Et l'hydroponie, ben, est un outil intéressant qu'on peut utiliser effectivement pour avoir un système agricole durable. Dans le sens que l'hydroponie, il ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais dans certains contextes particuliers, ça peut devenir super intéressant. Par exemple, au lieu d'importer des laitues, des fines herbes de la Californie ou du Chili ou quoi que ce soit, on peut le faire localement ici au Québec, surtout qu'au Québec, ben, t'sais, la culture hydroponique prend une certaine quantité d'énergie.
Ouais, mais avec
L'énergie utilisée.
l'hydroélectricité, c'est déjà mieux, ouais, c'est ça.
Exactement,
L'énergie
exactement.
éolienne aussi, bon, tout ça, ouais.
Exactement. Puis avec l'hydroponie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des cultures étagées. Entre autres, il y a ce qui s'appelle des fermes verticales intensives avec éclairage artificiel.
Ouais.
Fait que là, on a vraiment des entrepôts qui produisent des plantes.
C'est
Et
ça.
lorsqu'on produit, par exemple, des laitues là-dedans,
Monsieur
ben, ça laisse.
Chamberlain, on s'arrête le temps d'une pause, mais je vous retrouve tout de suite après, d'accord? Restez
OK,
là.
ça marche.
Aime l'été.
Et de retour avec Alexandre Chamberlain, directeur de Vireo, alors qui implante de l'agriculture hydroponique dans le milieu scolaire, mais un peu partout ici au Québec, mais aussi même aux États-Unis. Alors, bonjour, rebonjour Alexandre. Alors, on vous a
Bonjour.
coupé la parole, bien sûr, mais bon, on parlait de cette culture hydroponique, bon, qui peut être intéressante. Et évidemment, il y a des sources d'énergie qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques que d'autres aussi pour faire ce genre de culture.
Ben oui, en effet. La culture hydroponique, c'est un outil intéressant dans la lutte et dans l'adaptation au changement climatique, dans le sens où on peut produire des produits maraîchers comme des laitues, des fines herbes, etc., dans les villes extra-locales et laisser de la place dans la zone de périphérie pour tout ce qui est production agricole à haute valeur calorifique, comme tout ce qui est céréales, etc.
Alors, vraiment très intéressant. Et là, là, on va entrer dans le vif du sujet, dans les écoles. Alors, c'est un magnifique projet parce que c'est comme vous disiez tantôt, c'est un outil en même temps d'apprentissage. Vous l'intégrez vraiment à la pédagogie en même temps. En fait, c'est un laboratoire vivant et puis ça permet aux jeunes vraiment d'expérimenter, de comprendre aussi, puis de comprendre ce qu'est finalement. Enfin, de mieux comprendre l'aspect alimentaire, c'est ça, en milieu urbain notamment.
Oui, et aussi, je dirais même surtout, ça permet de servir une expérience à l'élève. Dans le milieu scolaire, une des principales priorités présentement de l'équipe école, c'est la santé, le bien-être de l'élève, mais aussi sa connexion avec la communauté. Donc, nous, un potager hydroponique, ce que ça permet de faire, en fait, un projet d'agriculture urbaine, ça permet de faire, c'est d'engager le jeune dans son éducation. Puis l'engagement, c'est une des choses qui est le plus difficile à faire pour un professeur. Et en reconnectant le jeune à la nature, on permet de se connecter à lui. À sa communauté, à l'impact qu'il peut avoir par la suite, puis finalement, on l'engage dans son système académique, dans sa santé et dans sa communauté. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, d'aller allumer quelqu'un au fond de lui, en quelque sorte. Puis l'agriculture urbaine est une excellente manière de le faire. On a tous en dedans nous ce besoin-là de connexion à la nature. On se sent bien en forêt, on se sent bien dans un jardin. Ben, ce phénomène-là, on veut le régénérer dans les écoles, et ça permet aux jeunes de se sentir plus heureux, ils se sentent en meilleure santé, ils ont plus envie de collaborer, ils sont plus proactifs, puis surtout, ça leur donne un sens. Pourquoi ils sont à l'école? C'est un jeune qui, je vais donner un exemple concret, là, un jeune qui va faire un projet de potager hydroponique où les laitues vont être données une œuvre de charité pour un repas le midi à des jeunes défavorisés, ben, le jeune comprend que tous les efforts qu'il a mis, toute la persévérance qu'il a eu à faire pousser ces aliments-là, va avoir eu un impact positif sur une personne à une journée X. Et là, le jeune comprend que ce cheminement-là d'être persévérant et d'apprendre, est-ce que ça s'applique aussi dans l'ensemble de son parcours scolaire? Est-ce que lui, plus vieux, va pouvoir aussi avoir cet impact-là dans sa vie professionnelle ou communautaire? Puis la réponse est oui, puis le jeune se reconnecte à ça, puis il devient bien motivé, puis on voit les transformations et des jeunes qui deviennent des leaders négatifs dans leur école grâce à ce sens-là qu'on donne.
Ouais, c'est fascinant, c'est fascinant. En même temps aussi, développer peut-être la fibre entrepreneuriale, hein, pourquoi
Oui.
pas?
Absolument. Ben, écoutez, l'entrepreneuriat, c'est moi, c'est même ma raison d'être. Hein. Moi, Vireo, c'est mon premier travail, c'est ma première entreprise. Je suis fraîchement sur l'université, j'ai décidé d'être entrepreneur pour pouvoir me développer à mon plein potentiel, puis contribuer. Puis on fait vivre cette fibre-là aux jeunes. Il y a beaucoup des projets qui sont dans les écoles qui sont de nature entrepreneuriale, où les jeunes vont faire grandir des plantes qui vont transformés pour vendre à la cafétéria ou qui vont vendre aux dépanneurs du coin ou aux parents, puis ils comprennent qu'il y a un potentiel d'impact, mais aussi de rentabilité, puis ça les engage, ça leur rend leur apprentissage très concret par la suite.
C'est ça. La réponse des professeurs par rapport à un tel projet, j'imagine que ça doit être fascinant aussi pour eux, finalement, de développer ce projet-là.
Absolument. Il faut le dire, hein, nos professeurs sont super occupés. On le sait, là, c'est vraiment c'est incroyable quand ces gens-là sont passionnés, puis sont motivés, puis c'est une vocation pour eux d'être enseignants. Fait que pour eux, de faire ce projet-là, ça devient encore une fois parfois quelque chose de plus pour eux. T'sais. Nous, on essaie vraiment de les accompagner le plus possible. Fait qu'on a une application avec toutes les technologies qu'ils ont besoin pour que le projet soit simple. Il y a des gens aussi à l'interne qui peuvent leur prêter main forte pour les accompagner. Mais effectivement, lorsqu'ils s'impliquent, leur travail devient plus motivant, puis parfois même plus, j'ai envie de dire, plus simple parce que les jeunes sont tellement engagés dans la classe. Mm-hmm. Il y a une diminution, tout ça est anecdotique, là, bien sûr, mais une diminution des conflits entre les élèves parce qu'ils apprennent à se connaître, à partager ensemble autour d'un projet. Puis il y a certains profs même qui décident de prendre leur retraite plus tard. Parce qu'enfin, un projet qui leur permet de... Oui, parce que, tu sais, au final, le prof, ce qu'il veut faire, c'est pas donner des notes. T'sais, le prof veut vraiment avoir un impact profond sincère sur le jeune, puis ce projet-là permet de le faire. Puis il y a des profs qui nous disent qu'enfin, ils peuvent réellement s'actualiser comme enseignants en réellement donnant cet impact-là.
Ouais.
Puis nous, ça nous comble. On est très heureux d'avoir cet impact-là avec ce qu'on fait.
Donc, des écoles primaires, mais est-ce que il y a des écoles secondaires aussi?
Oui, on a vraiment tous les niveaux. Nous, la manière dont le projet est construit, c'est spécifiquement pour les 9 à 14 ans. Donc, la fin du primaire, début du secondaire. Mais quand même des cégeps qui font des projets et des premières années. Là, ça va prendre un petit peu d'adaptation pour le prof pour réussir à adapter tout ça. Mais ben, ça fonctionne bien. Tous les niveaux peuvent bénéficier de projets comme ça. Puis même qu'on se rend compte que le primaire semble de plus en plus approprié pour ce qu'on fait. Simplement parce que le prof, étant généraliste, ben, il peut utiliser le projet pour l'ensemble de ce qu'il fait dans sa classe.
Alors, ben oui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on peut l'appliquer aussi selon nos matières. On peut pratiquement faire, finalement, mathématiques, français. Enfin, on pourrait lier ça à ce projet-là. À la limite, c'est pas un problème. Il suffit d'être créatif.
Oui. Nous, on va dire par abus de langage, en exagérant un peu, on dit qu'avec une tomate, on peut faire l'ensemble du curriculum scolaire.
Ah, oui.
C'est un sujet qui est sans fin, pratiquement. Là. Donc, puis les profs nous surprennent parce que nous, ultimement, ce qu'on donne, c'est des outils aux professeurs. On donne le contexte, qui est la culture urbaine, puis on donne l'approche, qui est de la pédagogie active. Puis c'est le prof, après ça, qui va utiliser ce nouvel outil-là pour accomplir ses objectifs, que ce soit curriculaire, que ce soit d'engagement, que ce soit d'inclusion. Puis nous souvent tout le temps avec les projets qui réussissent à imaginer. On a un prof qui a décidé, entre autres, de faire pousser de l'astépiade, qui est la fleur auquel les monarques se nourrissent, parce qu'à la fin de l'année, il y avait des papillons qui allaient venir dans l'école, donc on peut faire un lien avec tout ça. Puis tout ça dans le cadre d'une classe de sciences. On n'aurait jamais imaginé ça.
Finalement, vous-même, votre projet évolue constamment. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, 235 écoles en 3 ans qui ont été touchées par votre projet, finalement, à travers le Québec et à travers le Canada. Puis, aux États-Unis, là, c'est vraiment, ça s'implante aussi de ce côté-là.
Oui, ça démarre aussi. Je veux dire, l'ensemble de la planète est touché par tout ce qui est changement climatique. Puis tout le monde, présentement, essaie de s'aligner par rapport au développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU en 2016, si je ne me trompe pas. Puis l'ensemble des paliers gouvernementaux s'aligne par rapport à ce objectif-là. Puis l'école est un excellent endroit où enseigner ces objectifs-là, puis aussi développer des compétences. Parce qu'à l'école, c'est pas juste apprendre à compter, à pas faire de fautes en français et tout. C'est aussi comment on a des compétences, comment on devient des citoyens engagés, comment on est des gens qui sont créatifs, qui peuvent bien communiquer. Puis c'est ça qu'on veut aussi développer à travers ces projets-là terre à terre ou enracinés, pas faire de mauvais jeu de mots.
Bref. Bref, Alexandre Chamberlain, vous étiez un visionnaire. Finalement, vous êtes arrivé avec ce projet-là et c'est formidable parce que là, on ne sait même pas ce que ça va donner dans l'avenir. C'est-à-dire que ça peut s'ouvrir à des choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé, en tout cas. Mais bravo pour ce projet.
Ben, merci. On en est très, très fiers. Moi, depuis quelques mois, si jamais Viréo, pour X raison, il y a une météorite comme ça, Viréo, puis ça arrête, je suis déjà rempli comme entrepreneur. Notre impact est sur plusieurs centaines de professeurs, plusieurs milliers de jeunes. Et maintenant, notre travail, c'est d'amener cet impact-là à 10, 100, 1000, 10 fois plus de jeunes. Bon. Donc, c'est très motivant.
Le message est passé. Et donc, on communique avec vous. Bien sûr, ce sont les écoles qui peuvent aussi vous approcher. Alors, on va sur votre site Internet, Viréo. Je pense qu'on aura tout l'info là-dessus.
Oui, vireoeducation.com. Vireo veut dire être vert en latin.
Ah, d'accord. Vireo,
éducation.com. Vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre et nous faire un petit coucou.
Bon, Alexandre Chamberlain, bon été. Et puis, je vous souhaite longue vie à ce magnifique projet.
Ben, un grand merci. Merci pour la discussion. C'est super intéressant.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.